Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord expliquer pourquoi cette émission de ce soir n'est pas consacrée, comme on pouvait s'y attendre étant donné les déclarations que j'avais faites précédemment, à rendre un hommage aux combattants de 14-18, puisqu'on est le 10 novembre. Et c'est tout simplement parce que je prépare une émission qui sera exclusivement consacrée à ça et qui aura lieu la semaine prochaine. Pour une raison simple, c'est que les invités que j'ai priés de participer à cette émission n'étaient pas libres, n'ont pas pu se libérer pour ce soir, et que par conséquent, j'ai dû reporter cet hommage d'une semaine. Je pense que c'est un délai convenable. Bonsoir, Monsieur Roger Mine.
Bonsoir, Monsieur Serge Lebecque.
Vous pouvez parler dans le micro, ça aidera les populations à vous entendre.
La situation dans Paris est inextricable.
La situation est gréveuse, pluviométrique et footballistienne. Car naturellement, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir une espèce d'organisation secrète du football qui dit, tiens, c'est mercredi, on va ennuyer Bekech. Je démarre un peu vite. Là. Alors, on va organiser un match de football au parc, comment ça s'appelle, parc des...
Les Princes.
Le
parc
de
quoi, des Princes. Ben, les Princes, c'est ben, voilà.
Prince de mes genoux. Alors les princes en petite culotte, courant après un ballon, 22... Enfin bon, je ne vais pas recommencer mon vieux numéro, qui commence à être usé, mais pour ne rien cacher, je n'ai toujours pas de sympathie pour le football.
Monsieur c'est le Becquet, il y a une grève de métro également.
Alors c'est ce que je disais, la situation est gréveuse, puisqu'il y a une grève de métro. Une tournée que je roule en automobile, la grève de métro me chauffe peu.
Mais moi j'ai mis 40 minutes en taxi, c'est et une fois de plus, Radio Courtoisie ne rembourse pas.
Non, il fallait venir à pied.
Allez, quand tu ne rembourse pas, c'est bien observé, c'est finement observé. Bon, ces considérations personnelles et intimes étant en bouclée, je vais donner un aperçu de la soirée. D'abord, vous aurez la revue de presse désormais traditionnelle, puisque c'est la troisième.
Mais non, c'est pas la revue de presse traditionnelle. La semaine dernière, c'était trop long.
Ah ben, si c'est vous qui le dites.
J'essaye. Alors cette semaine, ça va être léger. Enfin, je vais essayer.
Si c'est vous qui me dites que c'était trop long, c'est que vraiment...
Puis si ça marche pas aujourd'hui, c'est fini, vous en ferez plus.
Ah non, non. Alors là, pas question. Ça. Vous avez pris un engagement, vous allez vous y tenir, ma bonne Victoria. Autrement, fessez. Donc, disais-je, la revue de presse désormais traditionnelle de Victoria, que c'est une revue de presse qui est circonscrite.
Circonscrite. À la famille la plus...
Toute plaisanterie est parfaitement malvenue, je vous le dis.
Toute petite
famille...
De 13 ans, etc., etc., etc. Vous verrez.
Ah bon, d'accord. Ensuite, Roger Mine, qui est à ma droite et dont vous venez d'entendre la voix suave et profonde, recevra un invité tout à fait prestigieux. Alors, Roger...
Eh bien, il s'agit de l'illustre couturier Paco Rabanne, qui a des choses extraordinaires à dire, à mon avis. Nous n'allons pas du tout parler de couture.
Pas du tout. Ensuite, je recevrai Philippe Vilgier. Philippe Vilgier est le préfacier d'un livre que viennent de rééditer les éditions François Brignot. C'est un très, très, très beau livre. De François Brignot,
non,
qui s'appelle...
Non, pas de François Brignot.
Comment,
il
pas
est...
de
Non,
François
non, il est préfacé
Brignot.
Par François Brignot, mais
qu'est-ce
le texte...
Aura...
Non, je vous
mais
dis...
Mais non, parce... Victoria...
Le texte est de Marcel Askenoff, et il y a une postface de Jean-Marie Le Pen.
Et la préface est de Philippe Vilgier.
Oui, et il y a une petite... Une préface, là, parce que c'est une réédition.
C'est un recueil de préfaces. Alors,
et
je vous
la
explique.
Préface, voilà, c'est un recueil de préfaces.
C'est un recueil de préfaces avec une postface.
Voilà, c'est ça. C'est
merci
ça.
De m'avoir et interrompu pour deux, apporter cette précision intéressante.
Très intéressante,
voilà.
Oui.
Alors, il s'agit d'un livre qui s'appelle « La mort en face » et qui raconte les derniers instants des condamnés à mort de tous les bords.
Oui.
Il n'y a vraiment que les gens d'extrême droite pour rendre hommage... Par exemple, à Gabriel Péri. Vous pouvez chercher un moment dans la presse communiste ou dans l'édition communiste un article rendant hommage à la mort héroïque de Bassompierre, par exemple. Ça, si vous trouvez ça, je vous paye des prunes. Mais même des prunes spéciales, des grosses belles prunes. En revanche, Brignot, qui est un sectaire fascisant, comme chacun sait, quand il fait un bouquin sur les condamnés à mort qui ont été fusillés au poteau, eh bien, il salue le communiste Gabriel Péri en disant « Voilà comment il est mort, voilà avec quel courage il a affronté ce moment-là. » Voilà, c'est de chez nous, ça, vous voyez. C'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. Donc je parlerai de tout ça avec Philippe Vigier, qui est le préfacier de la préface qui précède la postface de Jean-Marie Le Pen avec Anne Le Pape. Voilà, c'est clair comme ça ?
C'est très clair.
Le livre, il est où, entre toutes ces préfaces et cette postface ?
Eh bien, entre la deuxième préface et la première et seule postface,
c'est marrant,
il y a le livre de M. Askenoff.
Je l'ai lu, et alors j'ai pas dû lire le livre, j'ai lu que les préfaces. Bon, il y a en tout cas d'autres gens qui se trompent, je suis pas le seul à me tromper, notamment l'événement du jeudi. Alors je ne résiste pas, parce que l'histoire est trop jolie, à vous raconter ça. L'événement du jeudi, c'est un hebdomadaire qui paraît toutes les semaines, contrairement au Libre Journal, qui est un hebdomadaire paraissant tous les 10 jours. C'est un, je sais pas comment, un décadaire, voilà. Alors l'événement du jeudi, c'est un hebdomadaire décadent, tandis que le Libre Journal, c'est pas un décadaire bedonnant. C'est pas vilain, ça. Et donc, l'événement du jeudi publie dans son dernier numéro un papier, alors formidable, il faut lire, si vous arrivez à en trouver un à sa place, c'est-à-dire probablement dans la poubelle la plus proche, il faut lire ce papier parce que c'est quand même assez rigolo. C'est un papier qui explique que l'extrême droite, vilaine bête, bête immonde, que le ventre il est encore fécond et tout ça, est en train de rentrer dans les sectes. Vous voyez le truc? Vous suivez l'astuce? L'extrême droite noyote les sectes, ou les sectes noyotent l'extrême droite, on ne sait pas trop, mais enfin... C'est quand même la faute à l'extrême droite. Et dedans, dans cet article, il y a un encadré qui est signé de M. Faubert. Hein? Non, mais j'ai rien dit. Hein? Je dis M. Faubert, voilà, c'est son nom. Donc on ne peut pas me reprocher quoi que ce soit. Au Monde, il y a M. Biffaut, et à l'événement du jeudi, il y a M. Faubert. Voilà, c'est tout. Je ne dis rien de plus. Je fais gaffe maintenant parce que... Hein? Oula. Et donc, ce monsieur Faubert, dans l'événement du jeudi, écrit un papier « Secret et société, le cheval de Troie ». Parce que mon ami Philippe Randa a créé une publication, une lettre confidentielle sur les activités... Enfin, notre ami Philippe Randa, bien sûr, mon cher Roger, a créé une publication sur les une lettre confidentielle sur les activités des sectes. Alors que ce soit les sectes religieux, les sectes maçonniques ou d'autres sectes, qui s'appelle « Secrets et sociétés ». Alors naturellement, l'événement du jeudi, ça n'a pas plu. Donc ils ont fait un grand papier pour expliquer que la bête immonde et tout ça faisait son entrée. Et donc, secret et société, c'est le cheval de Troie de l'extrême droite dans les sectes. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne me suivez pas, vous faites des signes comme ça, comme mais si vous étiez en train de vous noyer.
Je ne comprends pas ce que c'est que la bête immonde. Mais enfin, à part ça, ça va, on suit.
Non, mais la bête immonde, c'était monsieur...
comment Bertolt il s'appelle? Brecht.
Bertolt.
Mon ami
Bertolt.
Ça, oui,
qui disait je ne sais pas très bien d'ailleurs qui il indiquait. Là,
bon, non, mais on suit, c'est un
alors, donc, et alors, il a donné plein d'informations. Il a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informations dans son article. Et alors c'est très rigolo parce que M. Randa a pris sa plus belle plume et il a fait une lettre à l'événement du jeudi, alors, dans lequel il reprend les informations données par M. Faubert. Alors Philippe Randa écrit « M. Faubert prétend que je suis ou que j'ai été membre du GRES. C'est faux. Je n'ai jamais appartenu à ce mouvement. » Monsieur Faubert m'impute une participation à la fondation de la librairie Ogmios en 1996. C'est faux, je n'ai jamais été associé à Ogmios. Monsieur Faubert avance 2 adresses pour l'éditeur de Secret Société. C'est faux, nous n'avons jamais été domiciliés à ces adresses. Monsieur Faubert me prête des relations avec Monsieur Michel Schneider. C'est faux, je n'ai depuis plusieurs années ni rencontré ni entrevu Monsieur Schneider, avec qui je ne partage aucun engagement politique et qui, de surcroît, publie une revue violemment anti-Le Pen. Monsieur Faubert estime à 80 le nombre des abonnés de Secret et Société. C'est faux, Dieu merci, cette estimation est aussi ridicule que fantaisiste. Et Monsieur Faubert attribue à Monsieur Dapremont un rôle dans Secret et Société. C'est faux, ce journaliste a quitté notre équipe depuis plusieurs mois. Donc vous voyez, dans l'événement du jeudi, vous n'êtes pas volé, puisque vous avez 7 informations, elles sont fausses toutes
c'est
les
fausse.
7. Non, il y a quand même une information qui est vraie, c'est la signature. Et encore, si je crois que c'est vraiment son nom, et que c'est pas un pseudonyme. C'est tout ça pour vous dire que... Il ne faut pas vous contenter de lire la presse sérieuse. Vous voyez ? Parce que si vous lisez que la presse sérieuse, voilà à quel genre de choses vous exposez. Mmh. C'est-à-dire que quand vous en sortez, vous en savez encore moins qu'en y entrant. Mmh. Donc, au lieu de dépenser, combien ça vaut ? 30 francs l'événement.
Je crois,
hein,
oui, je crois, oui.
C'est plus cher que le Libre Journal. C'est 3 francs de plus que le Libre Journal. Et encore, alors si vous vous abonnez au Libre Journal, alors là, vous avez combien ? 20, vous avez tout, je ne sais pas combien de numéros pour le prix de, au moins 3 numéros pour le prix d'un événement du jeudi. Donc le Libre Journal est bien mieux que l'événement du jeudi. Voilà. Tout ça pour vous dire que la presse est sérieuse à Paris, en France, et que, en plus, il faut quand même rappeler que M. Jean-François Kahn, qui est le directeur d'événements du jeudi, et qui est parfois invité à cette radio, d'ailleurs, pas par moi, mais sur d'autres... sur
journaux.
D'autres livres journaux, notamment le journal de Jean Ferret. Monsieur Jean-François Kahn distribue volontiers des leçons de déontologie. C'est un déontologue patenté, estampillé.
Pas tenté que ça.
Je sais pas pourquoi il est tenté, mais en tout cas, là, à mon avis, la déontologie, on a pris un vieux coup derrière les étiquettes. Vous voulez peut-être faire votre revue de presse, Victoria, maintenant que j'ai fini mon petit numéro de
persiflage. Je voudrais seulement donner envie à nos auditeurs de lire les journaux de la famille.
Je voudrais faire remarquer que la semaine dernière, j'ai supplié Victoria d'essayer d'être de bonne foi de temps en temps dans sa revue de presse.
C'est ça. Vous savez qu'il y a une expression qui dit « à blanchir un N ». On use sa lessive. Je ne peux pas dire le mot parce que autrement je me fais guessoter. Mais eh ben, à essayer de forcer Victoria à faire preuve de bonne foi.
À me blanchir, bravo.
Voilà.
Non, mais je voudrais par exemple dire aux auditeurs, pour l'affaire de la gerbe au maréchal, il y a sûrement beaucoup d'auditeurs qui ont été indignés comme moi, comme vous peut-être,
de l'attitude du tout. Moi,
président de la République.
Pas du tout. Mais je vais vous dire pourquoi je fais.
Je
peux
vous le dire après.
Après, bon.
Et puis, mal à l'aise aussi devant les commentaires des médias. On se sent un peu fou dans ces cas-là. On se dit, oui, qu'est-ce que j'ai à penser, pas comme tous ces gens-là. Alors, s'ils ont lu présent, le 9 novembre, ils ont été soulagés et réconfortés. Parce que Yves Daoudal s'indigne avec eux. Et il y a un très joli dessin de char qui ironise. Puis alors, dans présent, ils peuvent avoir des nouvelles régulières de la famille. Par exemple, ils peuvent savoir, ils peuvent suivre la campagne de Jean Madiran contre la répression Pasqua Gobert. Donc, ils ne se sentent pas seuls. Et puis, ils sauront là aussi que Char a été inculpé 11 fois pour son album Profanation. Et ils sont conviés à venir la soutenir le 30 novembre au Palais de Justice. Ça, ils le sauront nulle part ailleurs. Et puis pour tous ceux qui ne supportent plus d'entendre parler des années les plus sombres de notre histoire et d'en prendre plein la tête, et du devoir de mémoire qui n'est pas le nôtre, ben ils seront contents de lire dans NH l'éditorial de Martin Pelletier, qui leur conseille de retrouver le champ complet d'une histoire de France passée à la moulinette des réducteurs de tête, qui leur rappelle que Tolbiac est plus importante que Drancy, Suger que Barat, et Bouvines, Sully, Arc, Pascal, Blanche de Castille, Anne de Kiev, Alger et Verdun, naturellement, plus important que Dachau.
Dites-moi, je vous interromps une seconde, là, parce que dans la série des mauvaises fois, il y a quand même quelqu'un qui vous ratatine dans les grandes largeurs. C'est cet auditeur qui téléphone, et alors il téléphone maintenant, en disant « Le mini-journal de la semaine dernière était excellent parce que pas trop long ». Aujourd'hui, il est moins bon parce que trop court. Mais monsieur, vous auriez pu attendre qu'il soit fini avant de dire ça. Alors ça, comme mauvaise foi, on ne fait pas mieux. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire.
Qu'est-ce qui dit ces choses-là? Mais je n'ai pas terminé. Et puis alors, je voulais dire aussi, pour nos auditeurs, là, les conseils aux auditeurs, justement, toujours sur les mêmes sujets, dans le libre journal de la France courtoise de Serge de Bekech, ben, ils sauront, à propos du livre de Jean-Claude Pressac, des crématoires d'Auschwitz, qu'aujourd'hui, l'un des représentants les plus éminents de la communauté accuse un chercheur pourtant incontesté de réviser des chiffres à la baisse, certains chiffres, et d'ouvrir la voie à toutes les contestations sur ces circonstances, que ça montre la violence des affrontements que suscite le sujet jusqu'au sein du même camp.
Oui, on va parler de ces questions de chiffres d'ailleurs avec Serge Thion tout à l'heure, mais c'est vrai que là il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que M. Pressac, qui est un pharmacien, que l'événement du jeudi, ou je ne sais plus quel journal, L'Express qualifie de spécialiste incontesté des recherches sur les techniques de l'extermination nazie, a publié un gros livre, et que... il s'est fait prendre au collet, littéralement, par M. Lanzmann, qui est l'auteur de la Shoah, et qui lui reproche de légitimer ainsi les arguments des révisionnistes qui deviennent ceux... Alors je cite là, hein, monsieur... Qu'on m'entende bien, je cite monsieur Lanzmann, auteur de la Shoah. On légitime ainsi les arguments des révisionnistes qui deviennent ceux par rapport à quoi à qui tous se situent. Les révisionnistes occupent tout le terrain. Et il insiste, monsieur Lanzmann, à propos du livre de Pressac qui évoque ces questions, il dit très très précisément, j'observe, parce que Pressac, interviewé par Le Monde, sur la question des chiffres, dit « En France, la loi Guesso interdit de s'exprimer librement. » Et Lanzmann dit, en parlant de la déclaration de M. Pressac, qui fait partie de son camp, puisqu'ils sont tous les deux de violents adversaires du révisionnisme, il dit « J'observe que la loi Guesso vise spécifiquement à interdire la publication de textes négationnistes. Que faut-il comprendre ?» Ça veut dire... Si je sais lire le français, et quand on lit la totalité de l'article de M. Lanzmann dans le Nouvel Observateur, ça veut dire que M. Lanzmann appelle à des poursuites judiciaires contre M. Pressac. C'est clair. Alors, ça me paraît quand même quelque chose de très très important, parce que si maintenant on en arrive à ces extrémités qui relèvent de l'autocannibalisme, c'est très inquiétant. Hein. Là, il ne s'agit même plus de remettre en cause le droit à la recherche historique, le droit à la vérification, le droit à la contestation, ou même le droit au mensonge historique. Parce qu'après tout, pourquoi on n'aurait pas le droit au mensonge historique? Il y en a eu d'autres. Hein. Vous avez bien des gens qui nous ont dit que Katyn, c'était l'œuvre des nazis. Ils ont menti pendant un demi-siècle là-dessus. Bon, on n'a jamais envoyé personne en prison pour ça. Donc, remettre en cause le mensonge historique, c'est une affaire qui peut être admise au nom de la morale. Mais quand Monsieur Lanzmann commence à dire qu'il faut punir Monsieur Pressac parce que tout en étant d'accord avec lui, il est d'accord d'une façon légèrement déviante, là, enfin moi je les laisse se débrouiller entre eux, c'est pas mon problème, mais je pense qu'ils se préparent des lendemains qui vont pas chanter.
Ce qui est très grave, je crois, c'est qu'il minimise et il diminue les chiffres.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Ça, c'est impardonnable.
C'est évident. Alors, un auditeur nous fait savoir que la bête immonde dont parlait Bertolt Brecht, et c'est vrai qu'on n'y pense jamais à ça, parce qu'à force d'entendre dire et répéter les mêmes sottises, on finit par y croire. On croit toujours que c'est le nazisme. Pas du tout. C'est la social-démocratie qui était exécrée par les communistes, bien plus que le nazisme. Parce qu'il ne faut pas oublier que les communistes se sont alliés aux nazis, alors qu'ils ne se sont jamais alliés à la démocratie, à la social-démocratie.
Cher auditeur qui savait tout, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel ouvrage?
Quoi?
Bertolt Brecht.
Non, mais c'est pas un concours. On va pas lancer un concours.
Si, non, mais c'est pas un concours.
Si vous le savez, dites-le.
C'est pour me faire plaisir. Mais moi, je ne sais pas.
Il est encore fécond. Bon, enfin, bref.
Bon.
Voilà.
Le nom de l'ouvrage.
D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah tiens, on va écouter. Quand même, on va saluer. Nos grands-pères et nos arrière-grands-pères. Ce soir, on recommencera plus largement la semaine prochaine. Mais dès ce soir, on va le faire. Après, j'ai dit quand même une chose, à propos, tiens, justement, du dépôt ou du non-dépôt d'une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain. Moi, j'étais très, très, très content, je le dis très franchement, d'apprendre que le président de la République, François Mitterrand, avait décidé de ne pas déposer de fleurs sur la tombe du maréchal Pétain pour le 11 novembre. Parce que je trouvais absolument indécent que le type qui a jeté des fleurs par brassée sur Bernard Tapie le 14 juillet soit le même qui a jeté des fleurs sur la tombe du maréchal Pétain le 11 novembre. Alors tant qu'à recevoir des fleurs, autant qu'il les réserve à Tapie. Vous voyez, hein? Il y a des hommages qui sont salistes. Voilà ce que je voulais dire, n'est-ce pas? C'est une bonne hypothèse. Hein? Musique.
C'est pas mal.
Pourquoi invitez-vous Serge Thion, qui s'est vanté de porter les valises du FLN et qui a fait l'éloge de la trahison, demande un auditeur. Eh bien, je pense que quand nous aurons terminé notre entretien, vous aurez compris pourquoi j'ai invité Serge Thion. Je peux vous donner déjà la première partie du secret. C'est que tant qu'à faire, j'aime bien avoir des invités qui sont déjà intéressants. Deuxièmement, je ne crois pas que cette émission se justifie par le simple fait de ressasser sans arrêt les mêmes choses et d'inviter toujours les mêmes gens, parce que c'est évident que j'ai toujours un plaisir immense à recevoir Roger Olyndre, qui est un ami, qui est formidable. Mais je vous assure que toutes les semaines Roger Olyndre, ou toutes les semaines, même déjà toutes les semaines Beckett, vous avez du mal à supporter. Non, il faut, encore moi je dis, bon, non, il faut changer un peu. Et puis, pourquoi ne pas donner la parole à ceux qui, sans être des nôtres, acceptent de nous parler? On est tout le temps en train de se plaindre de n'avoir jamais la parole. Alors ne tombons pas dans le travers de nos adversaires. D'autant que, autant je suis hostile à l'idée de donner la parole à quelqu'un qui l'a partout. Hein? Je veux dire, j'inviterai pas dans mon émission, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui est partisan de l'économie libérale ou du libre-échangisme économique, parce que ces gens-là, ils sont partout. Hein. On les entend sur toutes les radios périphériques, ils détiennent le droit à la parole d'une façon quasi monopolistique sur les radios périphériques, sur les radios d'État, et même sur les radios libres, et même sur les radios de la FM. Hein. Ça, j'ai pas envie d'entendre défendre le GATT, quand bien même c'est fait brillamment par un esprit ouvert. Parce que c'est partout. Hein. Je pourrais citer d'autres exemples. Mais quand on a quelqu'un qui est muselé, qui fait partie des interdits de parole, eh bien, on a le devoir de dire à ce quelqu'un, voilà, vous n'êtes pas interdit de parole. Nous avons reçu dans cette émission souvent des personnages de cette catégorie. Je rappelle que nous avons reçu quand même un des responsables de je ne sais quel groupuscule trotskiste improbable, qui nous a expliqué comment on pouvait être trotskiste, que c'était. C'est intéressant. Si c'est exprimé avec bonne foi, avec sincérité, on n'est pas forcé d'être d'accord. J'ai pas adhéré à l'international trotskiste en mettant un terme à l'émission, mais j'aime bien entendre des gens qui parlent d'autre chose. Je trouve assez fascinant d'écouter quelqu'un qui dit des choses avec lesquelles on n'est radicalement pas d'accord.
Tu veux aussi dire, je suppose, si on t'écoute entre les lignes, que des types comme Serge de Beketch ou Roger Mine ne seront jamais invités chez Anne Sinclair?
Ben moi, j'irai pas de toute façon. Alors, c'est simple. Non, mais dans l'hypothèse où je m'inviterai, je n'irai pas. Parce qu'il y a ce jeu aussi. Non, je ne vais pas. Je n'irai pas. D'abord, je ne participe pas aux émissions de la télévision. J'ai toujours refusé. Enfin, toujours. Comme si j'avais été invité 800 fois.
Fin de parenthèse.
J'ai dû être invité 3 fois et j'ai refusé 3 fois. Voilà. Notamment par. Qu'est-ce qui voulait toujours m'inviter? C'était. Jacques Chabanne. De Chavannes. Oui, c'est un peu la même chose. Il a perdu. Il a gagné une fausse particule et il a perdu une quarantaine d'années. Mais c'est vrai que De Chavannes, c'est un moderne. Vous vous rappelez de Jacques Chabanne, le club de Paris?
C'était quand.
Hein? Roger Ferral et Jacques Chabanne. Bon, ben, j'étais invité par De Chavannes 3 fois, j'ai refusé 3 fois. Parce que on peut pas dire à la fois ces émissions sont de la. Oui, et puis y participer, ça tient pas debout. Hein? Voilà. D'accord. Tout ça pour expliquer. Serge Thion, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes, je pense que vous portez plus de valises, là, ça fait un moment que vous avez arrêté, si tant est que vous en ayez jamais porté.
Je suis ravi de voir qu'il y a des auditeurs qui connaissent mes biographies dans le détail, mais je lui dirais à ce monsieur une chose très simple, c'est que la guerre d'Algérie est finie, elle s'est terminée en 62, dans une guerre, il y a deux côtés qui s'affrontent, il était sans doute d'un côté, moi de l'autre. Je ne regrette pas, selon la formule consacrée, et je me suis même dit, il y a quelque temps, dans le fond, si les partisans de l'Algérie française avaient gagné, il y aurait aujourd'hui 25 millions d'Algériens qui seraient citoyens français à part entière. Et
ouais,
qui,
c'est un vieux débat.
Pourraient aujourd'hui passer la Méditerranée sans l'ombre d'un contrôle, évidemment, puisque bien l'Algérie sûr. Eût été la France. Et je me demande si finalement cette éventuelle victoire
n'aurait
pas posé
plus
de problèmes. qu'elle n'en a résolu.
Je crois que c'est tout simple. C'est un vieux débat. Moi, j'ai pas cette position-là. J'étais Algérie française. Je le suis toujours parce que j'ai la ferme conviction que si nous avions gardé l'Algérie dans la France, si nous avions gardé les départements algériens dans la France, eh bien, d'abord, ça aurait donné un élan formidable à la communauté franco-algérienne sur le plan économique, et puis aussi, ça aurait arraché, évidemment, ça aurait empêché l'Algérie de tomber dans l'horreur de la misère, du sous-développement et du régime socialiste ringard du FLN qui a produit la situation économique qui aujourd'hui fait que ces gens meurent de faim littéralement, sont sans espoir, sans travail, sans aucune richesse et se tournent, bien évidemment, comme on le fait nous aussi, catholiques, quand il y a quelque chose qui ne va pas, vers la transcendance. Et ils le font d'une façon qui, après tout, les regarde. Moi, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire fanatique islamiste. Je ne comprends pas. C'est un langage que j'ignore. C'est un langage qui m'échappe.
C'est celui de la guerre idéologique. Donc,
c'est le langage de la guerre idéologique. Et je dis que, après tout, ils sont fanatiques que parce qu'on les empêche, que quand on les empêche d'exercer leur religion à la manière qui leur convient.
Les fanatiques, c'est toujours les autres.
Hein, c'est clair. Oui, c'est ça. Alors, je vois pas au nom de quoi on va empêcher des gens d'être religieux et de pratiquer leur religion. Mais je pense que si la France avait participé, enfin avait gardé l'Algérie, les départements d'Algérie, on serait aujourd'hui un des pays les plus prospères du monde et ça serait absolument pas gênant. Il y aurait probablement d'ailleurs pas 25 millions d'Algériens parce que tout le monde sait que la démographie galopante est un effet de la misère et que le confort est au contraire un frein à la démographie, donc il y aurait certainement moins d'Algériens, ils seraient beaucoup moins miséreux et les problèmes ne se poseraient pas comme ils se posent aujourd'hui. Enfin, tout ça relève de l'hypothèse et au bout du compte, on ne sait absolument rien.
Oui, bien sûr.
Moi, ce que je crois, c'est que c'est vrai qu'on a des positions, Serge Thion et moi par exemple, qui sont radicalement antagonistes sur
sans
cette question.
Doute.
On ne va pas se convaincre mutuellement et accessoirement,
non,
ça ne servirait.
On peut expliquer pourquoi.
Voilà, on peut s'expliquer. Mais je dirais qu'accessoirement, ça ne servirait absolument à rien parce que de toute façon, c'est fini.
Voilà, hein,
c'est exactement
ce que je voulais
dire. Comme si on allait discutailler sur la question de savoir s'il fallait, je ne sais pas moi, reconnaître la Chine quand De Gaulle a pris la décision. Qu'est-ce qu'on peut y changer aujourd'hui? Il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Le fait est que maintenant c'est fait. Mais comment expliquez-vous que les mêmes, je parle des journalistes par exemple, ou les commentateurs, ou les hommes politiques, qui prétendent dénoncer les horreurs du régime cambodgien, aujourd'hui, on peut dire 13 ans plus tard, 15 ans plus tard, participe sans l'ombre d'un remords aux cérémonies du bicentenaire, alors que finalement le bicentenaire célèbre un autogénocide ou un autopopulicide qui n'a fait que préfigurer ce qui s'est passé au Cambodge. Alors c'est une incohérence formidable. Parce que si on compare l'horreur de ce qui s'est passé au Cambodge avec l'horreur de ce qui s'est passé en Chine, par exemple, pendant la révolution culturelle, on ne comprend pas du tout pourquoi l'indignation mondiale, en tout cas occidentale, qui a accueilli les événements du Cambodge, ne s'est pas du tout manifestée à l'égard de la Chine. Et pourquoi, quand Pol Pot est montré comme une espèce de Nosferatu xanthoderme, Mao Tse-tung est présenté comme une espèce d'incarnation du Dieu vivant et de l'intelligence politique élevée à son plus haut degré. Alors, quoi, les journalistes, les analystes et les gens qui étudient ces questions sont des imbéciles ou des menteurs ou, comment ça fonctionne?
Non, c'est parce que, vous savez, on est dans des pays qui sont irréels pour la plupart des gens qui écrivent là-dessus. Ils font des reportages sur la Chine, ils vont passer 8 jours en Chine ou ils vont passer 15 jours en Chine et puis ils reviennent. Cette Chine-là n'existe pas. C'est une Chine mythique, c'est une Chine des lectures, c'est une Chine de la représentation qu'on peut se faire de régimes qu'on connaît mal, qui sont en plus entourés de secrets, qui fonctionnent quand même essentiellement sur le secret. Chez les Cambodgiens, mais chez les Chinois aussi, il y a une véritable politique du secret. C'est l'arme principale du pouvoir, le secret. Donc il n'est pas étonnant que ce secret, pendant longtemps, soit difficile à décortiquer, ou qu'en tout cas, il ne soit pas donné à tout le monde de pouvoir le décortiquer, parce qu'il faut trouver un certain nombre de clés, et puis tâtonner pour trouver les serrures. Donc, je Je me souviens par exemple de d'avoir participé à une conférence d'orientalistes il y a 2-3 ans aux États-Unis, et il y avait un séminaire, il y avait plusieurs, vous savez, dans ces grandes conférences, il y a des débats séparés, et dans une salle, il y avait des gens qui débattaient de l'affaire Lin Biao. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Lin Biao, c'est un numéro 2 de Mao Zedong, le chef de l'armée, le type qui était le dauphin, etc. Et puis un jour, ce Lin Biao a pris un avion et a fichu le camp, son avion s'est écrasé et il a été décrété traître. Tout d'un coup, ce type qui était absolument au sommet du pouvoir, du jour au lendemain, s'enfuit. Il révèle sa nature de traître. Bon.
C'est l'affaire Bormann. Hein.
Alors, en réalité, tout ça est incompréhensible quand on est un journaliste, parce que on constate des faits, ces faits sont inexplicables, l'avion s'écrase en Mongolie, est-ce que c'est l'affaire des Russes, est-ce que les services chinois sont là-dedans. Donc, en réalité, quand des types, après 10 ans ou 15 ans après, arrivent, ils vont voir tous les protagonistes, n'est-ce pas, les enfants de Lin Biao, les gardes du corps, le médecin de Mao, et c'est ce que ces Américains étaient en train de faire. Et ils confrontent à ce moment-là les récits précis de la vie quotidienne des uns des autres. On arrive à reconstituer une histoire. Le secret qui entourait la vie privée et politique de tous les grands dirigeants, on arrive à le, si on fait le travail qui est nécessaire, on arrive à le percer. Mais du coup, c'est 10 ans ou 15 ans après, les journalistes, évidemment, ça les intéresse pas. C'est eux, ils veulent une explication tout de suite. Et oui. En général, on l'a pas.
Alors c'est ça qui est très très important dans votre démarche, et c'était la raison pour laquelle je vous avais demandé de venir ce soir, c'est que au fond, le travail que vous avez effectué sur le Cambodge démontre que la machine à désinformer, ou la machine à informer, se transforme par auto-allumage en quelque sorte en machine à désinformer. Elle surenchérit sur ses propres fantasmes, et c'est valable pour le Cambodge.
Oui, dans certains cas particuliers, parce qu'il y a une espèce de coagulation qui se fait, et certains problèmes prennent des dimensions de mythe. Si vous voulez, le Cambodge a servi à beaucoup de gens, par exemple en France, a servi à beaucoup de gens pour abandonner leur passé politique de gauche. Mmh. Hein? On peut dire qu'une grande partie de la gauche française, grâce au Cambodge, ne cherchant pas à comprendre ce qui s'était passé, mais adoptant une attitude de réprobation absolument comme ça, en bloc, s'est mis dans la disposition d'esprit qui lui a permis d'arriver au pouvoir en France.
C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Budapest, en quelque sorte. Il y a un peu le même effet en 1956, la contre-révolution à Budapest avait permis à quelques communistes tiédis, qui généralement d'ailleurs étaient devenus communistes à la libération, portés par l'effet résistance, avait permis à ces communistes de dire « moi je ne peux plus continuer à suivre ce régime-là, ce parti ». Dix ans plus tard, 15 ans plus tard, il se passe le même phénomène à l'extrême gauche et à gauche. Et
ça cache beaucoup d'arrière-pensée, parce que la raison profonde pour laquelle ces gens font ça, c'est qu'ils sentent que dans la société française, s'ils font un certain nombre de pas, ils arriveront au pouvoir. Vous comprenez, il y a une espèce de sociologie du retournement de veste qui n'est pas seulement une question de morale individuelle, mais qui affecte des mouvements sociaux et politiques relativement larges. Donc le Cambodge a servi aussi à ça. Et puis il y a eu un autre aspect, c'est que on s'est servi après de Pol Pot pour continuer la guerre d'Indochine. Il y a eu aussi le soutien occulte apporté à Pol Pot, et donc le fait que on ne souhaitait pas non plus peut-être entrer dans les détails, parce qu'il valait mieux oublier tout ça, puisque dans le fond, l'Occident, il faut bien le dire, jusqu'à au moins 1989, 90 et 91 à la signature des accords de Paris sur le Cambodge, les Occidentaux ont soutenu une formule politique qui était celle que les Khmers Rouges avaient inventée après leur défaite par les Vietnamiens.
Enfin, la pensée de Serge Thion est, comme j'aime à le dire, parfaitement décapante. C'est pour ça que je l'ai invité ce soir, parce que je crois que de temps en temps, il faut se sortir un petit peu la tête du coton et il faut écouter des gens avec lesquels on n'est pas d'accord sur les détails. L'accord se faisant, mais ça c'est une opinion personnelle, sur l'essentiel qui est beaucoup plus important. Merci Serge Thion. Merci.
Voilà, je vous en prie.
Au revoir. Voilà, c'était Bournazel, l'homme à la veste rouge. Tu as entendu parler de Bournazel?
Non, pas lui.
Enfin, Roger.
Devant des centaines de milliers d'auditeurs, tu es en train de révéler mon ignorance et c'est extrêmement gênant.
Bournazel était un officier français de Spahi, si je ne dis pas de bêtises, de Spahi, qui était connu par les populations maghrébines parce qu'il portait tout le temps une veste rouge.
Ah, veste rouge. J'y suis, oui.
Et il le considérait comme une espèce de djinn, de diable, de héros mythique. Mm. Et son officier supérieur, qui devait être un général ou un colonel... Comme tous les Spahis, bien sûr. Bah oui.
C'était pas un blue jean.
C'est Varley qui est ancien Spahi, qui est en train d'assurer son autopromotion. Et donc, un jour, son colonel, alors qu'il partait en opération, lui a interdit de porter sa veste rouge, ouais, en disant « Vous faites une cible rêvée, ouais, pour les salopards !» Et donc, il a retiré sa veste rouge et il a été tué.
Et le jean est devenu un blue jean.
C'est très intéressant. Merci de ce commentaire frappé au coin de l'émotion, du bon sens.
Tu l'as cherché.
Et de l'esprit. Alors... Changeons complètement d'univers, si j'ose dire, le mot est faible même, pour recevoir Paco Rabanne. Paco Rabanne, on vous connaît pour deux choses. Vous êtes un grand couturier. Vous étiez, comment faut-il dire?
J'essaie de l'être.
Vous l'êtes. Je vous avoue que je ne suis pas de vos clients, pour des raisons qui me paraissent assez
évidentes. Oui, le métal, je ne sais pas si le métal vous irait bien.
Il y en a bien qui voudraient me mettre dans du métal, mais... mais vous êtes connu maintenant pour une autre raison, c'est que vous êtes devenu un auteur adulé, très, très, très...
Oui, j'ai commis deux livres.
Voilà. Sur un sujet
inattendu. Dire, sur un sujet que je connais bien, qui pour moi est quelque chose de très profond, très important, qui a rythmé ma vie et qui peut-être pour les gens qui ne connaissaient que le couturier... a été un sujet d'étonnement, c'est-à-dire la philosophie, la recherche spirituelle, beaucoup tout ce qui a trait au paranormal, à l'ésotérisme, qui pour moi est l'essentiel de la vie d'un homme. Alors, en tout cas, c'est l'essentiel de ma vie.
Alors, les auditeurs de cette émission sont habitués à mes foucades dans ce domaine, puisque j'ai l'habitude de recevoir des gens inattendus.
Merci.
Attendez, on en est encore au compliment.
Je
dois dire, je dois la vérité de dire que je ne suis pas l'auteur de cette invitation. En tout cas, ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée. Tout simplement parce que je pensais que vous étiez une espèce d'intouchable, étant donné la notoriété.
Pas la méthode indienne, j'espère.
Non, justement pas. Vous l'avez jamais été.
Intouchable.
Oui.
Pas du tout, je suis un être qu'on approche très facilement, qui se promène dans la rue, qui prend le métro, le bus, et tous les gens viennent me parler dans la rue, j'aime ça. Je trouve que je suis un homme de contact, un homme de dialogue, et donc intouchable, non. Par contre, dans mon bureau, je me protège un peu parce que je vis de mon travail, et j'ai besoin de calme pour pouvoir créer. C'est très important pour moi que le téléphone ne sonne pas tous les 5 secondes pour pouvoir me concentrer sur un travail, sur un dessin, sur mon métier. Que j'aime également, ça fait maintenant 30 ans que je fais un métier, la mode, ayant abandonné l'architecture il y a 30 ans pour faire de la couture. Et au début, je trouvais que c'était un métier un peu bizarre, et puis j'ai appris à l'aimer, à le respecter. Maintenant, j'en suis fort, fort heureux.
Alors, Roger Mine m'a donc dit, on va inviter Paco Rabanne, parce que j'ai entendu une émission sur France Inter, c'était ?
C'était à la Radio Suisse.
Vraiment. À la Radio Suisse, oui. Formidable, il a dit des choses absolument passionnantes, je le veux dans l'émission, etc. Je lui ai dit, écoute, tu te débrouilles, moi, je pense qu'on ne pourra pas l'avoir. Il m'a dit, tu vas voir. Et puis voilà, je vois, donc vous êtes là. Mais je ne vais pas donc voler son plaisir à Roger, et je vais lui céder mon micro, parce que c'est un enthousiaste. Et,
oui, ben...
Et je pense qu'on n'interroge jamais mieux les gens que quand on les aime a priori.
Voilà, alors je vais d'abord vous poser un... Avant d'entrer dans le cosmique, je vais vous poser, faire un interrogatoire de police qui va durer une minute.
Mm-hmm.
Est-ce que Paco Rabanne est votre vrai nom ?
Non. Je suis né en Espagne, au Pays Basque, espagnol, à Saint-Sébastien, et j'ai un nom compliqué, Francisco Rabaneda Cuervo. Traduction française, François, tranche de pain, corbeau. Car ma famille est une famille celte très ancienne, et ma mère était basque et mon père était andalou. Je suis donc l'espagnol typique, idéal en tout point. Le nord qui se marie au sud.
Paco est un diminutif de Francisco. De
Francisco,
c'est ça. Vous êtes réfugié espagnol
ou... Je me suis réfugié, enfin ma famille, parce que j'étais trop enfant.
Bien entendu, oui.
Ma mère, après la mort de mon père, s'est réfugiée en France en février 1939. Nous avons passé la frontière et nous sommes allés nous cacher des Allemands à l'époque en Bretagne, où j'ai passé toute mon enfance. Dans ce Finistère Nord, pays de légende, pays celtique également, où je retrouvais presque mes racines, puisque ma grand-mère étant celte également, donc c'était pas très loin de l'univers onirique de ma grand-mère.
Je demande à tout le monde, à tous nos auditeurs de s'asseoir, parce que je vais vous demander votre âge. Vous avez 75 000 ans.
J'ai 75 000 ans, en effet.
Alors là, je vais
75 000 ans de vie sur la planète Terre.
Voilà, je voudrais bien vous demander une explication minimale, s'il vous plaît.
Mais écoutez, moi j'ai été élevé par deux femmes très particulières. Une grand-mère, chrétienne de tout craint, vraiment à tout craint, et qui, tous les matins, allait à vêpres, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et une mère rationaliste plutôt de gauche pour qui la religion était l'opium du peuple. J'étais partagé, déchiré entre deux femmes que je respectais, que j'aimais profondément toutes les deux. Et j'étais attiré plutôt par ma grand-mère parce qu'elle m'expliquait des choses étonnantes. C'était une femme qui avait les dons, ce qu'on appelle les dons. Elle soignait par les plantes et elle disait que nous avons ça dans notre famille depuis des millénaires. Ma grand-mère nous disait « nous sommes des Basques ». Et donc nous sommes des Atlantes, des Atlantéens, et c'est comme ça que j'ai commencé à entendre parler des Atlantéens très enfant. Ensuite j'ai eu un problème, enfant je ne dormais pas, j'étais insomniaque, et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'avais 7 ans, j'ai voulu arrêter le temps, ce temps qui ne s'écoulait pas assez vite pour moi. J'ai trouvé une technique respiratoire, avec pression des paupières sur l'iris, ce que plus tard un médecin allait me dire, qui crée un coma léger, et... Une chose incroyable, le temps s'est vraiment figé. J'étais pris dans une chape de plomb, et avant que j'ai pu avoir peur, j'étais lancé à pleine vitesse dans un espèce de tube gris fer argenté, et en sortant de ce tube, lancé à une vitesse énorme, je me suis retrouvé dans un ciel éblouissant, naviguant très haut parmi des étoiles incroyables, et quand je regardais vers le bas, je voyais mon corps allongé dans cette chambre près de lit de mon frère, avec ce fil d'argent qui reliait mon corps à ce que j'étais. Je ne savais pas ce que j'étais, mais ce que j'étais là-haut. Au début, j'ai eu très peur, puisque dans ce pays celtique qu'est la Bretagne, on parlait beaucoup de korrigans, d'elfes, etc. Et j'ai eu peur qu'un de ces korrigans, passant par là et trouvant ce corps vide, s'en empare. J'ai réussi à faire bouger ma main et j'étais aspiré par le corps. J'ai eu très peur, je ne comprenais pas ce qui venait de m'arriver. Cela ne pouvait pas être... puisque j'étais un peu aussi partagé entre la raison et la spiritualité de ma grand-mère. Et j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit « c'est ton imagination qui te joue des tours » et ma grand-mère qui m'a dit « tu as le don, maintenant pour ta sauvegarde, tu vas continuer ces expériences, mais tu vas te taire ». Et j'ai continué ces expériences, je partais là-haut, selon ma volonté, quand je voulais. Et un jour...
Relié par le fil d'argent.
Toujours relié par ce fil d'argent. Et un jour là-haut, j'ai voulu... Jouer encore avec le temps, j'ai voulu me projeter en avant. c'est-à-dire voir ce qui allait arriver dans le futur de la planète. Et j'ai dû me tromper, ou Dieu n'a pas voulu, les hiérarchies célestes n'ont pas voulu. J'étais projeté en arrière, très violemment. C'est-à-dire, j'ai vu défiler des époques invraisemblables, et j'ai vu des tas de scènes, de civilisations étranges, où il y avait un personnage central, et je me suis reconnu dans ce personnage central, et j'ai remonté très, 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 très loin.
D'où votre âge de 75 000 ans.
Exactement. Vous savez que dans la Bible, il est dit que les Elohim, c'est un pluriel, créèrent le ciel et la terre. Nous avons traduit, nous, dans la Vulgate, par Dieu créa le ciel et la terre. Dans la Torah juive, c'est les dieux. C'est un pluriel, Elohim, par rapport à Eloah. Et ça, les traducteurs ne le savent pas. Et donc, les dieux créèrent le ciel et la terre. Je pense qu'il y a 5 millions d'années...
5 millions ?
5 millions d'années, les Elohim, ces instructeurs venus du centre de la planète, ont créé à partir d'un amphibien, c'est-à-dire d'un animal terrestre, par des mutations génétiques, ce qui allait devenir l'homme. Parce que je crois que dans toute notre galaxie, tous les êtres pensants sont à l'image, sont des humanoïdes. Il n'y a pas de licorne pensante, il n'y a pas d'algue qui pense, il n'y a pas de poulpe intelligent. Nous sommes tous des humanoïdes à l'image de Dieu, ce qui a voulu que nous ayons ce corps, cette façon. Et moi, il m'a été montré dans un voyage astral d'où je venais. Je viens de la constellation de l'aigle, d'un soleil bleu, d'une étoile bleue appelée Altaïr, de la quatrième planète qui tourne autour de cette étoile. Et je suis venu avec un vaisseau spatial, avec des compagnons, je n'étais pas seul. Et les sages, le Sirius qui dirige notre galaxie, m'avaient demandé de voir où en était... les humanoïdes créés par les Elohim il y a 5 millions d'années, et c'est pour ça, et c'est comme ça que je suis arrivé il y a 175 000 ans sur cette planète Terre, que j'ai commis des exactions, donc c'est-à-dire l'illumination physique des êtres mal formés, mais qui étaient des êtres intelligents. Et comme nous dit la Bible, la loi de la punition du karma est très simple, c'est un temps, deux temps, la moitié d'un temps. Un temps étant la grande année cosmique de 25 000 ans, le temps que met le soleil à parcourir les 12 signes astrologiques. Et c'est comme ça que je suis resté donc un temps, deux temps, la moitié d'un temps, 75 000 ans de vie karmique sur cette planète Terre. Et tout ça m'a été révélé entre 7 ans et 9 ans. Ce qui était très dur pour un gamin de recevoir tout ça en pleine figure.
À 7 ans.
Et obligé de garder en soi. Et ces révélations invraisemblables m'ont obligé, pour ne pas devenir fou, pour ne pas devenir dingue, pour avoir quand même une espèce d'approfondir cela, à me plonger dans tous les livres de religieux que je tombais, dans tous les livres mystiques, et j'ai dévoré des bibliothèques entières. Car vous savez, dans la France profonde de la Bretagne des années 30-40, il n'y avait dans la petite commune où j'habitais, Plougeant, à Kerskoff, la maison des bois, la maison des bois à Plougeant, la ville de Jean. Il n'y avait pas ni radio, ni télévision, ni journaux, il n'y avait que les livres des bibliothèques municipales que j'ai dévoré, et puis ensuite j'ai eu la chance de monter à Paris pour faire l'architecture, où je suis rentré dans un atelier formidable qui s'appelait l'atelier Auguste Perret, où il y avait d'énormes initiés, parce que c'est un atelier qui a formé énormément d'égyptologues.
Mais je voudrais rester un peu en arrière de cela,
voilà.
Avant de sauter aux conclusions. Vous avez donc appris, entre 7 et 9 ans, que vous étiez réincarné.
Exactement, je ne savais pas que ça
vous avez eu plusieurs réincarnations.
Je ne savais pas
pendant 75 000 ans.
Voilà, je ne savais pas ce que cela voulait dire, je n'ai jamais employé le mot réincarnation. Je savais que j'avais vécu plusieurs vies dans des époques différentes, que je ne reconnaissais, je n'avais pas les informations physique et iconographique suffisante pour pouvoir reconnaître les époques. Et c'est plus tard en Beaux-Arts, à l'âge de 17 ans, 18 ans, rencontrant des égyptologues célèbres comme Vary, comme Hochschweiler de Lubitsch, comme Clément Robichon, qui est toujours en cas social vivant, qui est un homme maintenant de 92 ans, que j'ai appris quelles époques j'avais vécu. Par exemple, j'étais, il y a 3000 ans, prêtre en Égypte. J'étais le plus vieux prêtre de la cour d'Amenophis III, donc à Thèbes, donc prêtre d'Amon, le bélier. Et le roi Amenophis III m'a demandé de enseigner à son fils aîné, Thoutmôsis, qui a été tué dans un accident de char, et ensuite d'enseigner donc la cosmogonie égyptienne à son second fils, Amenophis IV, qui allait s'appeler Akhenaton. Akhenaton qui allait être le premier roi égyptien à créer le monothéisme. Or, dans cette cour du roi d'Amenophis IV, il y avait un jeune qu'une princesse avait sauvé des eaux, qui s'appelait Ossissé. Ossissé, plus tard, allait être nommé Moshe, sauvé des eaux. Et dans cette cour d'Tel Amarna, qu'Akhenaton, donc qui célébrait Aton le soleil, le monothéisme, dans cette cour, le roi allait être trahi par son général, Imhotep, qui était très amoureux de Néfertiti et la reine, trahi par lui, trahi par les prêtres d'Amon, abandonné dans le désert où il est mort, dit-on. D'autres disent qu'il est parti vers les Indes, mais ça je ne sais pas. Et j'ai fait allégeance aux prêtres d'Amon à cause d'un secret que je possédais, c'est-à-dire un secret atlante que j'avais conservé, que j'avais volé au temple de Thèbes. Les prêtres de Thèbes ne m'ont pas exécuté. Je suis revenu donc à Thèbes avec le jeune frère du roi Toutankhaton, que les prêtres allaient baptiser Toutankhamon, le bélier, et non plus Aton le soleil. Et avec 12 prêtres qui étaient restés fidèles à Khenaton, j'ai assassiné Toutankhamon. Je l'ai même enterré, et c'est moi qui ai mis la malédiction sur cette porte que plus tard allait franchir Carter, le seul des 31 personnes qui allait ouvrir ce tombeau, qui n'allait pas mourir dans l'année, parce qu'il avait au doigt une bague très particulière d'Imhotep, le médecin architecte de Ramsès II.
Vous êtes absolument, absolument convaincu de cela. Vous ne tenez pas votre imagination.
Non, c'est pas du tout mon imagination.
C'est pas un rêve.
Non.
Vous avez vécu.
J'ai vécu tout
cette
ça.
Chose.
J'ai
vous
vécu
en êtes ça. Conscient. Vous êtes conscient.
Oui, je l'ai vécu, je l'ai vérifié.
Est-ce que vous avez été d'autres personnages dans
Oui, beaucoup de personnages.
Entre 75 000 ans et maintenant, vous avez dû assister.
Vous savez, j'en ai parlé des égyptologues, nous avons parlé de toutes ces choses-là.
Un certain nombre d'événements de la planète, vous les avez vus? Vous pouvez nous en parler?
Attendez, il y a une chose qui me paraît quand même intéressante que vous alliez dire, si tu permets,
je t'en prie.
J'en ai parlé à des égyptologues, donc vous avez en quelque sorte confronté vos souvenirs à la science des égyptologues.
Exactement, pour les dates, pour
le
les
bilan
moments.
Est positif.
Exactement. Parce que même la première fois que j'étais en Égypte, que j'ai visité le musée du Caire, où il y a tous les trésors de Toutankhamon, j'ai retrouvé le poids des objets que je connaissais, mais surtout ces objets sont derrière une vitre. Mais en les regardant, j'en avais et la texture dans les doigts et le poids exact de chaque objet que j'avais donc manipulé dans le temps. Ensuite, j'ai discuté avec des égyptologues et pour eux, cela peut être. Ce sont des gens qui n'opinent pas exactement, mais qui écoutent et j'aurais donné des détails, des choses, des souvenirs qui me remontaient.
Une auditrice fait une remarque qui me paraît intéressante dans la mesure où on constate effectivement ça très souvent, c'est que quand il s'agit de réincarnation, c'est très très rare que les gens disent j'étais fille de ferme, une ferme du Poitou en 1312.
Pourquoi ? Moi je connais beaucoup de réincarnés, de gens qui se souviennent de leur vie passée, et très souvent ont été des gens excessivement humbles. J'étais moi-même humble de temps en temps. C'est plus drôle de vous raconter des vies marrantes. J'ai été prostitué aussi au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, en France, j'étais une jeune fille de province, une fille de 15 ans, enlevée par les dragons du roi, de sa majesté gracieuse et bien-aimée Louis XV, et amenée aux Champs-Élysées dans le bas, au parc des Cerfs, le fameux parc aux Cerfs de Louis XV, où j'ai servi au bon plaisir du roi et de ses courtisans, et je suis mort de la syphilis, j'avais 16-17 ans. Donc c'est pas une vie très marrante, j'étais pute aussi.
Il est étonnant que vous connaissiez, vous vous rappeliez tous les personnages.
On ne peut pas se rappeler tous les personnages. Non, il m'a été révélé là-haut certains personnages qui allaient me donner une explication pour ma vie après. Et certains personnages très humbles que j'ai été, c'est pour me ramener un peu plus d'humilité. Mais je crois que la loi de la réincarnation, c'est de subir en soi des possibilités différentes de façon à s'alléger de la matérialité pour arriver à un esprit d'humilité, à un esprit d'amour vers la divinité. Mmh. Vous savez, c'est comme ça que, cherchant, étant foncièrement chrétien, puisque je suis né dans une famille chrétienne, et cherchant dans nos livres sacrés, que sont les évangiles, j'étais très étonné de lire dans Luc et dans Matthieu que le Christ lui-même parlait de réincarnation. Rappelez-vous, lorsqu'il arrive devant le Jourdain, où les apôtres voient un homme qui baptisait les Hébreux, ils se tournent vers Jésus, c'est dit dans Luc et Matthieu, et très étonnés, ils leur disent, « Maître, de quel roi cet homme se permet-il de baptiser les Hébreux ?» Et le Christ se retourne vers eux, furieux, leur dit « Comment ? Vous ne le reconnaissez pas ? C'est Élie qui nous est revenu. » C'est dans la bouche de Jésus-Christ. Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie. Rappelez-vous l'histoire d'Élie qui était tellement pure. C'était un berger tellement aimant de Dieu que Dieu l'avait absorbé. Il avait, dans une espèce de flamme, il s'était consumé, ne laissant même pas de cendre. Et il était revenu pour rebaptiser le Verbe, le Christ, qui est devenu le Verbe.
Alors, je tiens à continuer sur le plan purement métaphysique,
oui.
S'il vous plaît, Paco Rabanne. Je vais revenir à vos 75 000 ans. Je voudrais bien faire une remarque d'au moins 30 secondes qui va mener à une question.
Alors, je dois te signaler qu'il nous reste 3 minutes avant l'interruption de cette heure et demie.
Ah oui, non, voilà. J'aimerais mieux poser la question après l'interruption. Voilà, je vais poser une question, une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous sortez de votre corps?
Monsieur Roger Mim, oui, je peux le faire quand je veux. Il y a une technique très particulière qui est une technique de concentration respiratoire et je donne la technique s'appuyer avec les paupières sur les iris qui crée une espèce de semi-coma et à ce moment-là, le corps énergétique qui comprend l'âme-esprit se dégage du corps.
C'est très dangereux. Le fil d'argent peut se rompre.
Non. Vous savez que chaque humain, lorsqu'il descend sur la planète Terre, c'est-à-dire lorsqu'il descend dans les enfers de la matière, il est protégé de l'ange gardien. C'est-à-dire une entité spirituelle qui descend et qui le protège et qui veille à sa bonne santé. Vous savez, il suffit de se remettre entre les mains de son ange gardien. Je suis un homme de prière constante. La Vierge nous dit toujours, vous êtes à la fin des temps, mes enfants, devenez des hommes de prière constante. Et je prie toutes les secondes de ma vie. Je prie Dieu sans arrêt, je prie Marie sans arrêt, je prie le Christ sans arrêt.
Ça fera partie des questions qui vont venir et qui ne vont pas être tout à fait amusantes.
Alors, Paco Rabanne, comme je m'y attendais, les réactions sont
déjà
partagées. Non, elles sont partagées. nous avons des auditeurs qui aiment beaucoup. Remercie chaleureusement Paco Rabanne pour tout ce qu'il dit. Merci de l'avoir invité. Je suis étonné d'entendre Paco Rabanne sur votre radio. Vous vous modernisez.
Ah, tiens.
parce que toutes les religions devraient être représentées à Radio Courtoisie. J'ai eu l'occasion de rencontrer Paco Rabanne au Monde Inconnu et je l'admire. Il y a des questions techniques. Un auditeur vous demande si vous avez connaissance des ouvrages de Meroy Givaudan,
oui,
dont L'Orbe de Lumière. Un autre évoque le livre d'Albert Kessy, Pièces inexplorées dans les grandes pyramides. Enfin, plutôt un livre dans lequel il est question de pièces inexplorées dans les grandes pyramides.
Non, c'est quelqu'un qui a parlé sur une radio. Excusez-moi, c'est pas moi qui ai pris le message.
Alors, je vois, recherche un livre.
Il a parlé dans une radio.
Bien, enfin,
sur ces pyramides.
Sur les pyramides, je peux vous raconter une histoire qui est une histoire vraie. Mais tout à l'heure, si vous voulez, quand vous aurez fini votre question.
Je poursuis la question. Monsieur Paco Rabanne connaît-il le livre de Paul Thomas, alias Paul Misraki, Les extraterrestres, écrit il y a une trentaine d'années?
Ah oui, je l'ai lu, en effet.
Alors, plusieurs auditeurs vous reprochent, à mon avis, c'est un lapsus, parce que vous avez dit, ma grand-mère allait tous les matins aux vêpres, alors que...
C'est pas exact.
Alors, d'aucuns en tirent des conclusions hâtives sur le reste de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'un monsieur dit...
Oui, vous savez, le lapsus existe.
Si, effectivement, les vêpres sont le matin, alors c'est pas étonnant qu'ils soient réincarnés, ce que je trouve assez méchant.
Non, ils ont raison de relever les erreurs.
Mais
je voudrais les voir devant une aussi auguste assemblée et devant un micro. Vous savez que le micro vous fait perdre contenance.
Bien sûr,
c'est une chose très difficile. C'est pas facile toujours.
Et alors, il y a carrément
Il y a des gens qui ne sont pas contents du tout, ça il faut le dire. L'auditeur dit c'est scandaleux, c'est triste et surtout c'est démoniaque.
C'est-à-dire
mais voilà, c'est tout ce message que je le reçois.
Vous savez, il y a une chose qui est merveilleuse pour cet auditeur. Je voudrais qu'il se rappelle les paroles du Christ. Le Christ a été formel. Il a dit « Tu ne jugeras pas, car si tu juges, tu seras jugé. » Et on voit, on reconnaît l'homme à ses œuvres. Ce que l'on sème, on le récolte. Alors avant de juger quelqu'un, de traiter de démoniaque, ce monsieur devrait se regarder dans une glace d'abord. Je ne jugerai jamais quelqu'un et je ne dirai pas que cet homme est démoniaque. Je dis qu'il me juge. Et alors qu'il entraîne...
Je ne pense pas que ce soit un jugement, c'est une opinion. Il dit, et en plus, ce n'est pas une opinion à votre endroit, c'est à l'endroit de ce que vous dites. Il dit les propos ou l'émission.
Mais peut-être que les propos, lui sont, sont nouveaux pour lui, mais je lui demanderai simplement, sur les problèmes de réincarnation, simplement qu'il relise, si c'est un chrétien, qu'il relise les évangiles. Et moi, je peux vous citer des phrases de l'Évangile où le Christ parle de réincarnation.
C'est ce que certains comprennent en lisant ces phrases. Mais l'Église s'est prononcée d'une façon radicale sur la question de la réincarnation. Elle l'a exclue.
Non, absolument pas.
Il y a au moins deux conciles au cours de l'Église.
Non, auxquels on n'a pas condamné la réincarnation. On a laissé ça au libre choix des chrétiens.
Écoutez, si vous
permettez... Il y a même une encyclique moderne et qui dit que sur ce problème-là, c'est laissé au libre choix des chrétiens.
Mais si elle est moderne,
pas forcément. Moderne, elle est suspecte.
Pas suspecte. Le premier concile qui a parlé de ça, c'était que pour condamner les théories d'Origène, parce que ça gênait terriblement pour des raisons d'esclavagisme, ça gênait beaucoup l'empereur de l'époque.
Alors, en tout cas, comme tu connais la tradition, je vais donner la parole maintenant pour quelques minutes à Marc Dem, puis après je te rends la parole pour poursuivre cette conversation avec cet entretien avec
des questions clés à poser.
Mais bonsoir Marc.
Bonsoir Serge.
Alors, puisque la question est posée, peut-être que vous avez la réponse dans votre immense connaissance. Qu'en est-il de la réincarnation face à l'Église?
Oui, alors l'Église est absolument opposée, elle a toujours été opposée à l'idée de la réincarnation à laquelle elle ne croit pas et qui s'oppose absolument à l'idée de résurrection, résurrection des corps. Mais il y a une...
Auquel je ne crois absolument pas.
Ah oui, ça c'est
votre droit. Comment le corps peut-il renaître? Le corps est matière, le corps est contraire à l'esprit. Si lorsque nous allons renaître, c'est en esprit face à Dieu qui est esprit.
Mais non, le credo dit « je crois à la résurrection de la chair ».
Non, mais vous rendez compte que Dieu, le Dieu ultime, c'est une pensée colossale, infinie, éternelle. Pour une raison que seul lui connaît, il crée la matière dans laquelle nous vivons. Mais avant que cet espace-temps existe, il y en a eu des milliards avant. Et quand cette bulle d'espace-temps créée il y a 16 milliards d'années, dans 15 milliards d'années, lorsqu'elle va s'avaler et disparaître, il créera encore d'autres bulles d'espace-temps dans lesquelles il y aura encore des mondes nouveaux. Car c'est l'orgueil invraisemblable de l'humain de s'imaginer qu'il est seul et qu'il va renaître. Nous sommes une pensée de la divinité. Dieu nous pense.
Vous savez, Marc Dem, excusez-moi. Oui. Je voudrais pas qu'on entre dans ce débat parce qu'on n'en sortira pas. Vous ne nous convaincrez pas, on vous convaincra pas. Simplement, ce que je demandais à Marc, c'est la position de l'Église. Il nous l'a donnée.
Là, je suis absolument formel.
Voilà. Hélas, j'ai discuté avec beaucoup de séminaristes.
L'idée de réincarnation.
Écoutez, j'ai rencontré dernièrement un évêque cistercien qui est venu me voir dans mon bureau. Il n'a pas tenu du tout votre langage.
Vous savez, je me méfie beaucoup de cet évêque cistercien.
Oh monsieur, ne jugeons pas s'il vous plaît.
Non,
le Christ l'interdit.
Alors, maintenant Marc, revenons, cette chose étant dite, à Iota Unum, qui je rappelle est votre lettre d'information confidentielle, d'information religieuse. Quelle bonne nouvelle avez-vous cette semaine?
Eh bien une nouvelle qui est, enfin c'est pas une nouvelle à proprement parler, si quand même, c'est une enquête sur la mort. Qu'a fait une revue qui s'appelle Panorama, qui est ni plus ni moins que la revue de la Croix, le mensuel correspondant à la Croix et qui fait partie du groupe Bayer. Alors, il y a une chose très intéressante et qui rejoint ce que nous venons de dire, c'est que 17% des catholiques pratiquants réguliers, hein, je dis bien des catholiques pratiquants réguliers.
Catholicos voulant dire universel, n'est-ce pas?
Oui, croient que nous disparaissons entièrement, corps et esprit, après la mort.
C'est étonnant.
Et cette opinion est partagée par 28% des catholiques pratiquants irréguliers. Alors, Jutta Unum, cette semaine, commente d'une façon très dure ce résultat en demandant ce que Panorama ne peut pas faire, en demandant la faute à qui, la faute à quoi. Par quelques bons prêtres, il en existe quand même, mais dans les paroisses, quand est-ce qu'on entend parler de choses comme cela? Qui a supprimé la messe des morts, le dies irae, le in paradisum, etc. Hein, qui a fait de Jésus un copain? Où parle-t-on encore du souverain juge, du jugement dernier, du jugement particulier? Qui enterre pompeusement à l'Église les francs-maçons notoires? Qui a fait de l'Église une sorte de ONG, hein, une organisation humanitaire non gouvernementale, etc. Enfin, c'est un véritable réquisitoire. Je suis sorti un peu cette fois-ci de ma réserve habituelle pour lancer cela, pour lancer ce réquisitoire qui, je crois, s'impose. Si les Français ne croient plus à la résurrection, eh bien, c'est parce que, d'abord, on ne leur en parle plus.
On n'en parle plus. Merci, Marc. À la semaine prochaine.
Oui.
Eh bien, je rends la parole enfin à Roger Mine et à Paco Rabanne.
Écoutez, moi, je respecte ces pensées parce que je crois que l'honnête homme se doit de respecter toutes les pensées des gens. Qui peut avoir l'outrecuidance de s'imaginer qu'il possède la vérité? Dieu est vérité. Dieu se révèle aux hommes et il ne leur révèle qu'une certaine partie de la vérité. Depuis toujours, moi, je connais ce que Dieu m'a révélé, car j'ai eu la chance d'avoir la révélation ultime quand j'avais 23 ans, ce qui fait que maintenant j'ai vraiment la foi du charbonnier, que je me prétends vraiment chrétien. Je n'ai pas dit catholicos universel, j'aurais voulu, mais il y a des prises de position d'une église moderne qui ne me conviennent pas. Et je me réfugie dans les évangiles que je lis et je relis avec une joie profonde, car je trouve dans ces évangiles une vibration énorme, une vibration d'amour, une vibration de justice, une vibration de vérité.
Bon, alors je vais vous reposer maintenant, je vais recommencer sur des questions très très techniques. Est-ce que, je vais vous demander certaines réponses assez brèves, s'il vous plaît.
Si, j'ai pas de problème.
Est-ce que vous avez choisi vos lieux d'atterrissage?
Oui. Oui, parce que je vais vous dire dans un voyage à Stras que j'ai vu. J'avais demandé d'où je venais. Et ils m'ont montré un lieu extraordinaire dans le cosmos, de l'autre côté, dans le monde astral. Mmh. Et j'ai entendu une voix qui me disait « Tu es au septième plan vibratoire. » Dans ce septième plan vibratoire, qui est, il y a deux autres, il y en a plusieurs. Vous savez que le Christ a dit « Il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon Père. Oui. » Et j'étais là en train de contempler l'unique, la divinité. Je n'existais plus. Mmh. Et brusquement, j'ai été tiré de cette contemplation fantastique par une présence étrangère. Je me suis retourné et j'ai vu 24 vieillards, c'est-à-dire de grands X de lumière qui me regardaient et qui m'ont dit « Tu dois redescendre sur la planète Terre. » Je dis non, j'ai accompli mon temps sur cette planète, mon temps karmique sur cette planète. Oui. Ils m'ont dit « Regarde !» Et ils m'ont montré ce qui allait arriver si j'acceptais de descendre sur la planète Terre, c'est-à-dire j'ai vu la Deuxième Guerre mondiale, j'ai vu la guerre d'Espagne, j'ai vu la guerre mondiale, j'ai vu la Troisième Guerre mondiale et l'arrivée d'une entité épouvantable, l'Antichrist. Devant cette horreur, j'ai dit à ces vieillards, je descends. Ils m'ont dit, choisis. Ils m'ont montré sur la planète Terre des couples qui faisait l'amour. Dans cette obscurité qui règne sur la planète par rapport au cosmos, ces couples, lorsqu'ils copulent, émettent une espèce de radiance. J'ai vu, en regardant ces couples, ce qui m'arriverait si je prenais naissance dans cette femme, dans ce couple. Ça ne convenait pas à ce que je devais faire, parce qu'il m'avait dit, tu vas faire ça et ça. J'ai vu au Pays Basque cet homme et cette femme, et en les regardant, j'ai vu la vie qui s'en découlerait. Ça me convenait. Quand j'ai dit « c'est eux », brusquement, il y a comme un trait de laser qui jaillit de moi, qui n'avait pas de forme humaine, puisque j'étais une boule d'énergie, comme l'un. Et je me souviens de la douleur horrible de la descente vers la matière, vers cette terre, vers cet homme, vers cette femme. Et je me souviens, quand j'ai touché le corps de cette femme, mon père, ma mère, qui va devenir ma mère, mon père a joui. La jouissance a été comme un coup de sabre terrifiant, une douleur horrible, et j'ai perdu connaissance, et j'ai retrouvé la connaissance, le souvenir, à l'âge de 7 ans. Et c'est ce que les Grecs appellent boire les eaux du Léthé, c'est-à-dire le fleuve de l'oubli qui vous empêche de vous souvenir de ce que vous avez été dans le passé. Donc, voilà comment je me souviens de ma descente sur cette planète Terre et comment j'ai choisi cette femme. C'est pour ça que l'avortement et toutes les méthodes de ça me font très peur, malgré que je sois un homme moderne, car je me souviens d'avoir touché cette femme au moment...
Oui, de la jouissance.
De la conception. De la conception. Et donc, c'est vrai que ça devient un crime terrible.
Alors, si vous pouvez choisir si vous avez choisi votre site d'atterrissage, je vais employer le mot site dans les deux sens.
Oui.
Le sens grec, c'est YTE, qui est la cellule, et le sens latin site, qui est le lieu. Uh-huh. C'est le cas, n'est-ce pas?
Uh-huh.
On peut parler, depuis ces 75 000 ans, d'un balayage microscopique du cosmos, c'est-à-dire que ayant choisi l'endroit où vous pouviez naître, vous avez été vous-même désigné pour une mission avec l'habit du cosmonaute, le fœtus.
Mm-hmm.
Il y a le cordon ombilical. Vous mm-hmm. êtes sorti de la cabine.
Mm-hmm.
Et quand cette mission sera accomplie, vous réintégrerez la cabine. Ou bien c'est votre dernier karma. Est-ce que c'est votre dernier karma?
Non. Non, non, non.
Ce n'est pas votre
non, puisque dans un voyage, j'ai demandé là-haut.
Votre dernière réincarnation, je veux dire.
Non, non. Au guide, j'ai demandé où j'irai plus tard, et ils m'ont montré une autre planète.
Vous le savez déjà.
Je sais qu'après cette mort, je repars, si je me réincarne dans la matière, dans le monde de la matière, dans une autre planète, car il y a beaucoup de planètes habitées par des humanoïdes pensants. Car il n'y a pas qu'une seule planète sur un bras extérieur de notre galaxie où il y a des humains.
Mais c'est votre dernier voyage sur la planète Terre.
Sur la planète Terre.
Vous le savez.
Oui.
C'est une révélation ou bien c'est...
C'est pas du tout une révélation. C'est une chose que là-haut ils m'ont montré.
Avant votre dernière descente. Qu'on vous a montré avant votre dernière descente.
On m'a montré, non, lors d'un voyage astral où j'ai posé la question. J'ai fait plusieurs voyages astraux et à chaque fois je posais des questions là-haut.
Mm-hmm.
Et il me répondait, bon, ça peut faire sourire les gens. J'aime bien le sourire des gens, et parce qu'il ne faut pas croire ce que je dis. Il faut que les gens vivent ça eux-mêmes. Et en ça, je suis d'accord avec la personne qui rejette ça, qui refute, mais il ne devrait pas me traiter de démoniaque, parce que là, il va faire quelque chose de terrifiant. C'est-à-dire, il me porte un jugement.
Ça, c'est une ancienne,
Oui, mais en portant un jugement comme ça, lui-même, il va avoir le contre-choc karmique.
Tout à fait.
Car nous sommes actuellement, comme dit Saint Jean de Patmos, dans les temps réduits. Actuellement, nous payons. Dans notre vie maintenant, l'effet karmique, il fallait avant des vies successives pour effacer le...
Alors, je voudrais maintenant vous poser des questions concernant l'avenir rapidement. Comment voyez-vous ce qui va arriver, la situation actuelle de la planète?
Ben, la planète va très, 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 très mal. Rappelez-vous, dans Saint-Jean de Patmos, dans son Apocalypse, donne la révélation, Apocalypse, la révélation, donne trois scénarios. Un scénario pas trop catastrophique, c'est-à-dire les sceaux, la levée des sceaux, c'est-à-dire la cire, l'humain, la chair. Et le deuxième scénario, ce sont les cavaliers, c'est-à-dire la kundalini, l'énergie double qui est dans la colonne vertébrale. Et le troisième scénario, le plus terrible, si l'homme ne se repent pas, c'est le son, les trompettes. Les trompettes, c'est le verbe, c'est-à-dire que tout ce qui est dit est définitif. Et donc, nous sommes, vous savez, à la sonnerie de la cinquième trompette, puisque la troisième, c'était l'étoile qui tombe sur la Terre, et qui empoisonne le tiers des mers, des eaux et le tiers des terres. Et cette étoile qui tombe et qui empoisonne la terre s'appelle Absinthe. Vous savez qu'Absinthe en ukrainien, c'est Tchernobyl. Donc Tchernobyl est tombé, actuellement la cinquième trompette va retentir si l'homme ne se repent pas. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces apparitions de la Vierge, Marie qui s'est réincarnée, qui est apparue à des jeunes enfants pour les prévenir que l'homme était en train de courir à sa perte et qu'il fallait rechanger notre comportement vis-à-vis de la mère terre, c'est-à-dire Gaïa qui nous a été offerte, et essayer de la sauver.
Et si l'homme ne se repent pas, c'est la guerre?
Ben écoutez, la Troisième Guerre mondiale, elle est déjà là. Hein.
Elle est là.
Elle est là, elle a commencé, la Première Guerre mondiale a commencé à Sarajevo en 17, la Troisième Guerre mondiale a commencé à Sarajevo.
Est-ce qu'il y aura un déclenchement pratique de la Troisième Guerre mondiale? Vous voyez des faits pratiques,
oui, bien sûr,
réels, par
bien
exemple?
Bien sûr, Nostradamus nous dit avant conflit, le grand mur tombera, le grand mur de Berlin est tombé. Il nous dit également, celui dont le sang reperce le visage trouvera mort subite, mort trop plainte, c'est-à-dire celui qui a des taches de sang sera donc fusillé. C'est Gorbatchev. Lorsque Eltsine et Gorbatchev seront assassinés par un maréchal qui reprendra le pouvoir, le communisme n'étant pas mort du tout en URSS, le communisme, pour ne pas que l'Amérique intervienne là-bas, vont armer les fondamentalistes musulmans, et ça sera
Vous prévoyez l'assassinat de Yeltsin et de Gorbatchev
pour très bientôt.
Oui. Alors je vais terminer sur une question plus agréable, si vous permettez, parce qu'on a été très grave et très sérieux et très sévère. Je crois que vous aimez les femmes.
Oui.
Nous sommes trois dans ce studio de Beketch, vous et moi, à être d'accord. Voulez-vous dire un mot sur le parfum, s'il vous plaît? Je crois que le parfum a un secret, il y a un chiffre dans le parfum.
Oui, il y a beaucoup de choses. Vous savez que le parfum est une chose essentielle pour l'humain. L'humain se situe dans l'espace par l'acuité de ses cinq sens. Or, l'odorat est un sens très très important. N'oubliez pas que lorsque Jésus est né, les rois mages ont apporté l'or, la myrrhe et l'encens, c'est-à-dire deux parfums par rapport à une chose matérielle, l'or royal. Et également, on dit que d'un homme qui est saint, il est en odeur de sainteté. Oui,
exactement.
Et les apparitions de la Vierge s'accompagnent toujours d'une odeur délicieuse de lys et de rose. Qui est caractéristique, tandis que les apparitions...
Vous parlez d'une femme que nous aimons beaucoup.
J'adore Marie, je prie Marie tous les jours. Et au contraire, les apparitions diaboliques s'accompagnent d'une émission d'odeur épouvantable qui est le soufre. Voilà. Une odeur de soufre et d'urine qui est épouvantable.
Je vous mets entre les mains de Serge de Beketch.
Eh bien, moi,
je vous remercie beaucoup.
Je me contenterai de vous remercier d'avoir passé cette heure avec nous et en compagnie de Roger Mine. Merci, Paco Rabanne.
Merci. Et pardon si quelques auditeurs ont été scandalisés par mes propos. Du fond du cœur, je ne voulais pas les contrarier ni leur imposer quoi que ce soit. Simplement dire que la tolérance existe, pas celle qu'on met dans des maisons, mais qu'il faut quand même ne pas trop vite juger. Parce que l'erreur est humaine, elle est peut-être mienne, peut-être, elle est peut-être vôtre, qui sait. Alors relisons ensemble les évangiles et prions.
Rendez-vous là-haut. Philippe Vigier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors donc vous êtes le préfacier d'une préface, si j'ai bien compris ce que nous expliquait Victoria tout à l'heure.
Effectivement, car ce livre a une histoire. En réalité, il s'agit d'une réédition.
Alors ce livre, il faut dire son titre tout de suite pour qu'il n'y ait pas que les auditeurs ne téléphonent pas pour le demander.
Ce titre, c'est « La mort en face ». « La mort en face », c'est donc un recueil de toutes les lettres des gens qui sont morts au cri de « Vive la France », mais des gens qui avaient choisi des camps différents, donc pendant la dernière guerre et également pendant l'Algérie française.
Alors, l'histoire de ce livre.
L'histoire de ce livre, donc, c'est en 1967. François Brignot dirigeait alors les éditions du Clan et il avait fait paraître donc ce recueil de textes que je viens d'évoquer. Il avait fait une préface et pour présenter les lettres des condamnés à mort, il y avait donc ce texte, ces textes, ces petits textes de Marcel Askenoff. Ça, c'était en 1967. Donc une réédition parce que si François Brignot a estimé qu'en 67 ce livre avait sa place, notamment avec les drames issus de l'Algérie française, les drames de la guerre qui étaient encore vivants dans les mémoires, eh bien encore 50 ans après, notamment avec les événements que l'on peut vivre actuellement, enfin actualité, hein, notamment avec les, on parle beaucoup des dépôts de gerbes ou du nom des dépôts de gerbes sur la tombe du maréchal Pétain. Eh bien, toutes ces questions relatives à la guerre étant toujours plus que jamais d'actualité, eh bien cette réédition lui a semblé nécessaire, mais agrémentée de deux nouveautés. Un entretien avec Jean-Marie Le Pen, donc interviewé par Anne Le Pape, sur justement le thème de la réconciliation française, et une préface historique concernant ce sujet.
Alors, je voudrais qu'on parle d'abord de vous, Philippe Vilgier, parce que en 67, quand le livre est sorti, vous étiez à peine né. Je ne sais même pas si vous étiez né.
Si, quand même.
J'étais tout petit.
Voilà, exactement. Donc c'est vrai, je n'ai pas connu la guerre, et donc j'ai coutume de dire, quand on me dit, mais oui, vous n'avez pas connu ces événements, vous en parlez, eh bien oui, je ne les ai pas connus. C'est peut-être un peu pour ça que François Brignot m'a demandé de le préfacer, quelqu'un qui n'a pas connu tous ces drames franco-français. Et donc, oui, je me rappelle juste quand même, c'était en 1961, je souhaitais que les parachutistes sautent sur Paris, mais si je le souhaitais, c'est parce que j'étais en classe de 7e et je trouvais ça très amusant.
Donc vous étiez en train de vous ennuyer sérieusement. Exactement. Et vous préfériez regarder par la fenêtre dans la tente des parachutistes.
Exactement.
Ouais, c'est bien excusable. Alors, la raison pour laquelle vous avez accepté de faire cette préface à un livre qui est quand même un livre un petit peu dur, enfin, c'est ce recueil commenté des derniers écrits, des dernières paroles de condamnés à mort, pour la plupart tombés dans une guerre que vous n'avez évidemment pas connue, puisque c'était la Deuxième Guerre mondiale, et puis ensuite tombés devant les pelotons de l'Algérie. Qu'est-ce qui vous a décidé à accepter de faire cette préface ?
Tout d'abord, il faut dire que j'étais déjà habitué à travailler avec François Brignot, donc il m'avait déjà demandé de préfacer La Terreur, son recueil de textes sur la Terreur, donc qui était paru initialement pour un certain nombre dans l'Antique 89, donc il m'avait demandé d'arranger ça pour en faire un livre, et également donc de le préfacer. Et puis François Brignot a appris par la suite que je préparais moi-même un livre concernant la droite nationale dans la France combattante et dans la résistance. Il m'a dit, bah, écoute, tu pourrais essayer de faire une préface là-dessus. J'ai pas dit oui tout de suite, parce qu'effectivement, quand on regarde ces textes, quand on lit ces textes, d'abord la première action, c'est de se dire, mais tous ces gens qui osent parler, enfin, de et oui, je suis pour, je suis contre, un tel est un salaud, 50 ans après, quand on lit vraiment les lettres de ces gens qui vont mourir, je dis, bah, moi qui je suis pour parler de choses comme ça. Et puis, c'est pour ça que je me suis décidé, mais j'allais dire en parlant du côté historique, après tout, ça fait partie de l'histoire de France. Et puis, des axes de réflexion me sont venus. Je me suis dit, ces gens, bon, c'est vrai, ils ont été dans des camps opposés, mais après tout, quand on regarde l'histoire, et en cherchant dans leurs déclarations, ils auraient pu, c'est vrai, se retrouver dans le même camp. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont divisés alors qu'ils avaient le même amour de la patrie? Et c'est en fin de compte ça qui m'a décidé à faire cette préface demandée par François Brignot.
Qu'est-ce que ça vous a appris, ce livre?
Ça m'a appris, j'allais dire, à... C'est difficile à exprimer, mais... vraiment à pas juger à l'emporte-pièce comme ça, comme on entend des gens, j'allais dire, de radio ou de médias. Bon, ben, l'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit comme ça, quand on voit des déclarations de Bernard-Henri Lévy, par exemple, bon, ben, d'abord on songe à la fameuse photo que vous avez dû voir dans le journal quand il était à Sarajevo, donc lui, bon, en étant cette fameuse photo où on le voit donc accroupi pour une interview, alors qu'apparemment les balles n'ont pas l'air de siffler, et lui, quelqu'un comme ça, se permet de juger des gens qui ont tout donné, enfin qui ont tout donné pour leur patrie, quel que soit leur camp. Bon, bah, je dis vraiment, c'est des gens comme ça, pour moi, je ne les estime pas.
Mais quand vous lisez, par exemple, les pages qui concernent Gabriel Péri, bon, qui était un communiste, donc qui était un adversaire, et on peut dire même un ennemi, quelle est votre réaction ?
Eh bien, c'est toujours ce qui demande. Dans leurs dernières lettres, on ne trouve pas de paroles de haine. Et c'est ça vraiment le grand message. C'est un message par les gens qui peuvent le donner, pas par des gens qui parlent à tort et à travers. C'est ce message de réconciliation française qui se dégage à la lettre de ces condamnés à mort.
Alors, il y a une chose aussi qui est très surprenante, c'est que il n'y a pas réellement de différence entre ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas dans ces lettres. C'est-à-dire qu'au fond, il y a la même espérance dans les lettres de ceux qu'on peut imaginer des athées, comme les communistes, et dans les lettres de ceux qu'on sait croyants. On a l'impression qu'au moment de la mort, le doute disparaît.
C'est vrai, puis parce qu'il me semble, quand on regarde leurs textes, ils pensent, ils sont sûrs que leur mort va servir à quelque chose. À quelque chose, c'est-à-dire à quoi ? Eh bien, à la patrie. Toujours, ils en reviennent toujours là, que ce soit Gabriel Péri, effectivement, que vous citiez, que ce soit Bassompierre, par exemple. C'est toujours, toujours, ils en reviennent là, leur mort ne sera pas inutile pour la libération de la France, pour la réconciliation des Français, suivant les camps, mais on en revient toujours là.
Alors le livre, donc, on a dit que c'est une succession de préfaces, mais il a donc une postface.
Oui, effectivement.
Alors c'est une idée intéressante, puisque Anne le Pape a interrogé Jean-Marie Le Pen sur le livre.
Oui, Jean-Marie Le Pen, ce livre, il y a plusieurs reprises, il lui était arrivé de le citer, là je pense à des journées culturelles de National Hebdo, notamment, et c'est un livre qui lui tenait à cœur, il avait été particulièrement ému quand il était sorti, et donc François Brignol le savait, et il a trouvé justement que, pour parler de la réconciliation française, de ces drames donc qu'a pu vivre la France, eh bien Jean-Marie Le Pen était particulièrement bien placé.
Et ce qui est curieux, enfin inattendu pour qui ne connaît pas Le Pen, c'est que ses réponses ne sont pas du tout dans le fil de ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire que elles sont plutôt dans le fil du livre. Ce sont des paroles de réconciliation nationale.
Exactement.
De pacification.
Exactement. Donc, au cours de cette interview, il y a vraiment beaucoup. Et Le Pen était particulièrement ému. Hein. Anne Le Pape, donc, qui a réalisé l'interview, je sais que en sortant, les deux étaient particulièrement émus d'évoquer tous ces souvenirs.
Alors, ce livre, il faut peut-être donner les noms quand même des personnages dont il évoque les derniers jours. Vous l'avez sous les yeux.
Oui, oui. Alors bien. Vous avez cité Gabriel Péri, effectivement, alors avec deux grands noms quand même qui sont des figures emblématiques pour chaque camp. Bien sûr, c'est Brasillach et puis Honoré d'Estienne-d'Orv. Mais effectivement, il y a tous mêlés, si j'ose dire, les miliciens du Grand Bornand, il y a les martyrs de Chateaubriand, des textes à la fois pour des gens, j'allais dire, connus, d'autres moins connus. Et ce qui frappe vraiment, c'est que face à la mort, tous ces gens-là savent trouver les mots.
Oui, oui, on voit d'ailleurs des lettres de... Il y a une lettre d'un maire, je crois, qui va être fusillé, qui est c'est un paysan. On sent très bien que c'est un homme d'une grande simplicité et qui écrit à sa femme en lui disant ce qu'on a envie de dire dans ce cas-là, j'imagine. C'est-à-dire, prends soin des enfants. Mais c'est d'une émotion tout à fait incroyable, et c'est d'une qualité, ça a l'air idiot de parler de ça, mais c'est d'une qualité d'écriture stupéfiante. Quand on pense aux circonstances, quand on pense à la simplicité de l'auteur, on est ahuri de trouver une telle élévation de pensée, une telle qualité d'expression dans des circonstances pareilles.
Ça c'est tout à fait l'impression qu'il s'en dégage.
Et c'est constant, c'est-à-dire que les textes de Brasillach, qui était un poète, qui était un écrivain, qui était un spécialiste de littérature et de poésie grecque, ces textes ne sont au fond pas plus beaux que les textes du petit milicien du Grand Bornand qui fait ses adieux à ses parents ou du fusillé de Chateaubriand. Et c'est quand même là, on est dans encore une fois dans
une situation où la mort transcende tous les clivages sociaux, y compris les clivages culturels.
Mais tout dans ce livre, je trouve, reflète, va dans ce sens. Par exemple, si on prend l'exemple, et c'est évoqué dans l'interview donc de Jean-Marie Le Pen avec Anne Le Pape, donc Gabriel Péri, qui avait été défendu par Odette Moreau, donc l'avocat, l'avocate Odette Moreau, et pour elle a été déportée justement pour cette défense de Gabriel Péri. Et Odette Moreau, c'est Odette Moreau elle-même qui défendra Bassompierre ensuite bien à la libération. Donc vous voyez, c'est vraiment, on se répète, mais c'est vraiment un livre de réconciliation nationale. Odette Moreau, encore un mot. Oui, je songe qu'elle s'est présentée sur des listes Unir également avec Jean-Marie Le Pen. Reste tout ça a un lien.
Alors, ce livre s'appelle, je le rappelle, La mort en face. Vous y trouverez le récit des dernières heures et les textes des derniers écrits d'Honoré d'Estiendorf, de Gabriel Péri, d'Agnès Adrien, de Jacques Decour, de Pierre Benoît, Pierre Grelot, de Jacques Baudry, de Lucien Legros, Jean Arthus, René Bompin, le vicaire Bompin, Maurice Polonneau, Michel Dabat, Louis Laboulette. Je cite tous les noms parce que ce sont des gens qui méritent qu'on fasse vibrer leurs noms, comme ceux qui sont gravés sur les monuments aux morts. Marcel Barton, Alexandre Truchot, Edmond Guyot, Roger Pironeau, Paul Ponchon, Pierre Lamandé, Alex Fourny, Riquet Courageau. Et puis Pierre Pucheux, Robert Brasillac, Fernande Brinon, Joseph Darnan, Pierre Laval, Jean Bassompierre, Paul Chac, Émile Billot, Louis Descubes, Angelo Chiap. Alors la lettre d'Angelo Chiap, elle est extraordinaire. Fernand David, Jean-Hérole Pakis, Marcel Bucard, Jean Luchaire, les frères Lescure, les 75 miliciens du Grand Bornand, Claude Pix, Albert Dofcart, Roger de Gueldre, Jean-Bastien Thiry. Les textes sont, donc, on l'a dit, de Marcel Askeneuf, Philippe Vilgier et François Brignaud, et le livre est suivi d'un entretien en forme de conclusion entre Anne Le Pape et Jean-Marie Le Pen. Alors c'est un livre que l'on peut se procurer où donc ça?
Eh bien,
aux éditions,
aux publications FB, 24 rue de l'Amiral Roussin, 75 015 Paris, et le prix est de 145 francs franco.
Merci Philippe Vilgier.
Je croyais qu'on avait un enregistrement de Jean-Marie Le Pen.
Ah, on a un enregistrement.
Oui, on a pris un petit morceau, je crois.
On espérait que Jean-Marie Le Pen pourrait venir ce soir. Il parle en province. En revanche, un petit morceau de l'interview Anne Le Pape est tout à fait, c'est très court, 3-4 minutes. La qualité n'est pas très bonne, mais
si c'est audible, on le passe. Parce que l'autre jour, on m'avait dit la qualité n'est pas très bonne, et c'était pas ça, c'était totalement inaudible. Et comme on est dans des conditions techniques particulières, je ne m'en suis pas avisé. Si fait, j'ai dû infliger à nos auditeurs 10 bonnes minutes de quelque chose qui était totalement inaudible. Alors, essayons d'entendre.
Or, ces hommes-là, tous ont d'abord été courageux. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a que les dénonciateurs et quelquefois les traîtres qui ont été indignes devant la mort. Tous sont d'abord courageux, tous sont généreux, et ce sont des paroles d'amour qui sont leurs dernières paroles. Amour de leur femme, de leur fiancée, de leur maîtresse, de leurs enfants, de leur pays, de leur parti, de leur pays, de leurs camarades. Le sentiment aussi que la mort n'est pas inutile, que leur mort n'est pas inutile, et qu'elle va servir encore au-delà de leur vie humaine. Et c'est vrai, la lecture d'un livre comme celui-là peut profondément influencer, bouleverser et amender ceux qui le disent. Et c'est une grande chose de l'avoir fait. Et d'avoir montré par le rapprochement que des hommes d'options si différentes pouvaient être si proches. Moi, je dois dire que je n'ai rien trouvé d'original, parce que ni que je n'avais pas aperçu, parce que il m'avait profondément marqué, mais j'ai eu encore les larmes aux yeux en le lisant. J'ai été profondément ému et bouleversé en le lisant, et j'ai admiré que ceux qui n'étaient pas poètes, comme l'avait la chance de l'être Brasillac, ou ceux qui n'étaient pas cultivés, arrivaient en griffonnant leur petit message d'adieu à trouver des phrases admirables.
Voilà, c'était un bref extrait de l'entretien de Jean-Marie Le Pen et Anne Le Pape à propos du livre dirigé, peut-on dire, par François Brignaud, La mort en face, qui vient de reparaître 20 ans, je crois, après sa première, pas tout à fait 20 ans, 17 ans après sa première édition. 67. Et je rappelle où on peut se le procurer, aux publications François Brignaud, 24 rue de l'Amiral Roussin. Enfin, publication FB, plus exactement, parce que publication FB, F comme François, B comme Brignaud, 24 rue de l'Amiral Roussin, 75 015 Paris, le prix est de 145 francs franco.